Évangile selon Marc, chapitre 15. Jésus livré à Pilate, versets 1 à 15.
Lecture de la parole. Et aussitôt, au matin, les principaux sacrificateurs avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin, ayant tenu conseil, lièrent Jésus et l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea, « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Et répondant, il lui dit, « Tu le dis. » Et les principaux sacrificateurs l'accusaient de beaucoup de choses. Et Pilate l'interrogea encore, disant, « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il porte témoignage contre toi. » Mais encore Jésus ne répondit rien, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or il leur relâchait à la fête un prisonnier, lequel que ce fût qu'ils demandassent. Et il y avait le nommé Barabbas, qui était détenu avec ses compagnons de sédition, lesquels, dans la sédition, avaient commis un meurtre. Et la foule, poussant des cris, se mit à lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Et Pilate leur répondit, disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que plutôt il leur relâchât Barabbas. Et Pilate, répondant, leur dit encore, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent encore, « Crucifie-le !» Et Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Et Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié.
Lecture de l'étude. La nuit était fort avancée lorsque se termina la comparution de Jésus devant le souverain sacrificateur, puisque le coq avait chanté deux fois. Le chant du coq correspondait à la troisième veille. La parole ne nous dit pas ce que devint Jésus durant le reste de cette nuit sans pareil. Nous voyons, au matin, le Sanhédrin tenir conseil et envoyer Jésus lié à Pilate. Le gouverneur devenait l'instrument des chefs du peuple juif pour faire mourir leur roi, mort qu'ils avaient décidé, mais qu'ils ne pouvaient exécuter, les Romains ayant ôté à leur sujet le droit d'infliger la peine capitale. Pilate demande à Jésus s'il était le roi des Juifs. Jésus lui répondit simplement, « Tu le dis ». Les sacrificateurs l'accusèrent de beaucoup de choses, sans cependant convaincre de la culpabilité de leur victime, Pilate, qui demanda encore à Jésus, « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il témoigne contre toi. » Mais Jésus ne répondit pas un mot, ce qui étonna fort Pilate et l'embarrassa sans doute, car il aurait aimé entendre la défense de l'accusé pour se former un jugement avant de prendre une décision. Jésus avait fait sa belle confession devant Ponce Pilate en déclarant qu'il était le roi des Juifs. 1 Timothée 6, verset 13.
Le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate.
Il n'avait rien de plus à dire au gouverneur, pas plus qu'au sacrificateur. Puis il ne voulait rien faire pour se délivrer. Il était celui qui n'a pas ouvert sa bouche, laissant les hommes poursuivre leur œuvre d'iniquité tout en se livrant lui-même. Pour sortir de l'embarras dans lequel le plaçaient les accusateurs et l'accusé, sachant que Jésus avait été livré par méchanceté, Pilate offre aux Juifs de libérer Jésus selon la coutume qu'il avait de leur relâcher un prisonnier à la fête de Pâques. Cette proposition fut bientôt repoussée, car elle n'entrait pas dans leur plan. Ils excitèrent, au contraire, la foule à demander au gouverneur de leur relâcher plutôt Barabbas, un séditieux et un meurtrier. Pilate demanda ce qu'ils devaient faire de celui qu'ils appelaient roi des Juifs. Ils répondirent en criant « Crucifie-le ». Le gouverneur leur dit encore « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils s'écrièrent encore plus fort « Crucifie-le ». Voulant contenter la foule qu'ils craignaient plus que Dieu, Pilate relâcha Barabbas, fit fouetter Jésus et le livra aux soldats pour être crucifié. On voit en Pilate ce qu'est l'homme gouverné par sa propre importance. Au mépris de la justice, il fait taire la voix de sa conscience. Il ne peut s'élever au-dessus de l'opinion du peuple qu'il gouverne, ignorant que l'autorité qu'il représente est donnée de Dieu pour la faire valoir avec justice et bonté. Mais que dire des Juifs qui connaissaient le vrai Dieu, qui avaient devant eux toute la vie de Jésus comme témoignage de sa perfection, et qui forcent la main au gouverneur païen, afin que, malgré lui, ils accèdent à leur désir de crucifier leur roi? C'est en effet la mort de Jésus qui a manifesté ce qu'est l'homme, sa ruine absolue et sa haine pour Dieu. Mais, par cette mort aussi, l'amour de Dieu en Christ brille dans toute sa beauté au sein des profondes ténèbres à la faveur desquelles l'homme, gouverné par Satan, a montré son état irrémédiable et une culpabilité que rien ne peut atténuer. Au lieu de laisser de tels êtres endurer le jugement qui était leur part sans réserve, c'est celui que l'homme méprise et rejette, l'homme parfait qui le subit à leur place, afin que l'amour de Dieu, le fleuve de la grâce, coule librement en faveur d'une race indigne de tout, sauf du jugement divin. Entre les mains des soldats, versets 16 à 28.
Lecture de la parole. Et les soldats l'amenèrent dans la cour qui est le prétoire, et ils assemblent toute la cohorte, et ils le revêtent de pourpre, et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent autour de la tête. Et ils se mirent à le saluer, disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient contre lui, et, se mettant à genoux, ils lui rendaient hommage. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils le dépouillèrent de la pourpre et le revêtirent de ses propres vêtements. Et ils l'amènent dehors pour le crucifier. Et ils contraignent un certain homme, Simon, cyrénéen, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, venant des champs, de porter sa croix. Et ils le mènent au lieu appelé Golgotha, ce qui, interprété, est lieu du crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mixionné de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et l'ayant crucifié, il partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun en prendrait. Et c'était la troisième heure, et ils le crucifièrent. Et l'écriteau concernant le sujet de son accusation portait écrit « Le roi des Juifs ». Et avec lui, il crucifie deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Et l'écriture fut accomplie qui dit « Et il a été compté parmi les iniques ».
Lecture de l'étude. L'œuvre des Juifs accomplie, celle de Pilate aussi, Jésus passe entre les mains brutales des soldats romains qui trouvent leur satisfaction à exécuter la volonté d'hommes responsables d'un crime sans nom devant le ciel et la terre. Ayant entendu que Jésus était accusé comme roi des Juifs, ils le revêtirent de pourpre, couleur des vêtements royaux, et tressèrent une couronne d'épines qu'ils placèrent sur sa tête. Puis, par dérision, ils le saluèrent comme roi, lui frappant la tête avec un roseau, crachant contre lui, lui rendant hommage à genoux. Tels des fauves qui jouent avec leurs victimes, la créature déchue trouvait son plaisir à se railler de son créateur devenu homme dans ce monde pour la sauver. Combien l'amour de Jésus apparaît dans toute sa beauté au milieu de cette scène où, victime volontaire, serviteur parfait, le Sauveur du monde laisse faire pour aller jusqu'au bout dans l'œuvre qu'il a entreprise. Après s'être moqué de Jésus, les soldats lui rendent ses propres vêtements, dont ils l'avaient dépouillé pour le revêtir de pourpre, et l'amènent hors de la ville pour le crucifier. Ils contraignirent Simon, père d'Alexandre et de Rufus, de porter la croix sur laquelle Jésus allait être cloué. On peut supposer qu'Alexandre, que l'on trouve avec Paul à Éphèse, en acte 19, verset 33, et Rufus, l'élu du Seigneur, en Romains 16, verset 13, sont les fils de ce même Simon. Acte 19, verset 33.
Et ils tirèrent Alexandre hors de la foule, les Juifs le poussant en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter une apologie au peuple.
Romains 16, verset 13.
Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne.
Lorsque Marc écrivit son évangile, ces deux hommes étaient connus de lui et des frères. Cela fait penser que Simon et ses fils ont continué de porter la croix de Jésus, selon qu'il le dit en Marc 8, verset 34.
Et ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. »
Arrivés au lieu du supplice, nommé Golgotha, mot qui veut dire « lieu du crâne », les soldats veulent donner à Jésus du vin mixtionné de myrrhe, boisson qui avait une certaine propriété narcotique que l'on donnait aux crucifiés pour atténuer les premières douleurs. Jésus ne le prit pas. Il voulait tout endurer en trouvant le secours ailleurs, dans la jouissance de la communion avec son Père, car, dans les souffrances qu'il supportait de la part des hommes, il n'était pas abandonné de Dieu. Après l'avoir crucifié, les soldats se partagèrent les vêtements de Jésus, accomplissant les Écritures sans le savoir. Psaume 22, verset 18.
Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe ils jettent le sort.
C'était la troisième heure, 9 heures d'après notre manière de compter le temps. Au-dessus de la croix, on avait placé une inscription indiquant le sujet de l'accusation, le roi des Juifs. De chaque côté, un brigand était aussi crucifié. Là encore, l'écriture fut accomplie qui dit « Il a été compté parmi les iniques » Ésaïe 53, verset 12. Exposé aux injures de tous, versets 29 à 32.
Lecture de la parole. Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant, « Eh, toi qui détruis le temple et qui le baptises en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Pareillement aussi les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux avec les scribes, disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient.
Lecture de l'étude. Lorsque les soldats eurent terminé leur œuvre cruelle, Jésus fut exposé, durant les 3 heures qui suivirent, aux insultes de toutes les classes de la société, depuis les chefs du peuple jusqu'aux brigands crucifiés à ses côtés. Ceux qui passaient l'injuriaient, hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le baptise en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix » verset 29. Nous savons, chers lecteurs, ce que nous serions devenus si notre précieux Sauveur avait usé de son pouvoir pour descendre de la croix. Le jugement qu'il allait endurer de la part de Dieu aurait été notre part durant l'éternité. Là encore, c'est son amour parfait qui l'a fait rester sur la croix. Il voulait glorifier Dieu en subissant sa colère contre nos péchés, afin que son amour pût être connu de ceux qui n'avaient mérité que le jugement. Pareillement aussi, les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux avec les scribes, disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même » Verset 31. C'était précisément afin de sauver les autres qu'il demeurait attaché à la croix, souffrant toutes les douleurs du crucifiement et, plus encore, les douleurs morales dont son cœur parfait était torturé dans ce moment où les hommes ne lui épargnaient rien. Cette assemblée de méchants, ces taureaux de Bazan, ces lions déchirants et rugissants, ces chiens dont parle le psaume 22. Rien n'a été épargné à Christ. Dans sa vie et dans sa mort, il a enduré tout ce qu'on peut souffrir, et cela non seulement pour sauver, mais aussi afin de pouvoir sympathiser avec ceux qu'il sauvait lorsqu'il passerait par tous les genres de souffrance. Que le Christ, roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions, ajoutent encore les sacrificateurs. Si Jésus fut descendu de la croix, il aurait été inutile de croire en lui, parce que c'est la foi en un Christ mort et ressuscité qui sauve, et non la foi en un Christ qui n'aurait pas passé par la mort. C'est pourquoi Jésus disait aux Juifs, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Jean 6, verset 53. La chair et le sang séparés signifient la mort. Les pères avaient pu être délivrés lorsqu'ils avaient crié à Dieu, psaume 22. Mais si Jésus avait été délivré de la croix avant la mort, nous ne l'eussions jamais été. Comme le serviteur hébreu, type de Christ, Exode 21, verset 5, disait « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. De même, par amour pour son Dieu et Père, qu'il voulait glorifier à la croix, et par amour pour tous ses rachetés, Jésus n'a pas voulu user du droit qu'il avait de se soustraire à la mort, car il n'y était nullement obligé pour lui-même. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Il ne veut pas s'y soustraire. Il va jusqu'au bout pour recevoir la délivrance de Dieu lui-même lorsque tout sera accompli. C'est ce qui eut lieu pleinement par la résurrection. » Les 3 heures de ténèbres, versets 33 à 36.
Lecture de la parole. Et quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui, interprété, est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, et ayant rempli une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire, disant « Laissez, voyons si Élie vient pour le faire descendre. »
Lecture de l'étude. Nous avons suivi Jésus au travers des phases diverses qui se sont succédées depuis son arrestation. Il a comparu devant le Sanhédrin, devant Pilate. Il a passé entre les mains des soldats. Il a été exposé sur la croix, depuis la 3e à la 6e heure, de 9h à midi, aux injures et aux railleries de tous, et même aux insultes des brigands crucifiés à ses côtés. Maintenant les hommes ont accompli leur œuvre de haine contre leur innocente victime, l'homme doux et humble de cœur, qui était comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Une autre scène commence. Et quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure, verset 33. C'est le moment où Jésus, chargé de nos péchés, subit le jugement de Dieu à la place du coupable. De ce qui se passa durant ces 3 heures de souffrances indicibles que Jésus endura, aucune description ne pouvait être donnée. Le Sauveur était seul sous le poids de nos péchés. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix disant « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui, interprété, est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 34. Ce cri seul exprime ce qui s'est passé durant ces 3 heures de ténèbres qui enveloppaient la terre. Séparés de Dieu par nos innombrables péchés, identifiés avec le péché, car il est dit qu'il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21.
Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui.
Jésus vit se détourner de lui la face du Dieu trois fois saint, qui a les yeux trop purs pour voir le mal. À ce moment unique, dans l'éternité, il accomplissait ce qu'était en type la victime pour le péché, dans le service lévitique, sacrifice qui ne montait pas devant Dieu en parfum de bonne odeur, mais qu'on brûlait hors du camp. Lévitique 4, verset 12.
Tout le taureau, il l'emportera hors du camp dans un lieu net, là où l'on verse les cendres, et il le brûlera sur du bois au feu. Il sera brûlé au lieu où l'on verse les cendres.
Ce qui se passait dans l'âme pure du Sauveur, on ne saurait le sonder. C'était infini, divin, éternel. En Gethsémané, l'anticipation de cette heure où Jésus buvait la coupe de la colère de Dieu avait produit l'angoisse indescriptible et la sueur sanglante. Mais ici, c'en était la réalité, ce qui correspond au châtiment éternel que le croyant aurait dû subir, abandonné de Dieu. Là, comme nous l'avons déjà vu en Matthieu, eut lieu l'expiation du péché. En vertu de ce qui s'est passé durant ces 3 heures de ténèbres, quiconque croit a la vie éternelle. Jusqu'à la 6e heure, Jésus a souffert de la part des hommes. Ses souffrances ont pour conséquence les jugements de Dieu sur eux. Mais, depuis la 6e à la 9e heure, Jésus endurait les souffrances expiatoires que Dieu infligeait à son Saint-Fils contre le péché. Les conséquences en sont le salut, la paix, la délivrance du jugement, le pardon des péchés pour celui qui croit. Le psaume 22 décrit ces conséquences en bénédiction à partir du moment où l'œuvre est accomplie. Jésus ayant été délivré des cornes des buffles, figure de la mort. Dieu, dès lors, a toute liberté pour faire grâce. Il fait proclamer son salut jusqu'au bout de la terre. Quelques-uns de ceux qui assistaient à cette scène solennelle, unique et mystérieuse, en entendant le cri de Jésus, loin de saisir ce qui se passait, ne comprenant pas même son langage, disent « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut, et ayant rempli une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire, disant « Laissez, voyons si Élie vient pour le faire descendre ». Verset 36. Jusqu'au bout, l'homme montre sa bassesse, sa dureté et tout ce qui découle du cœur éloigné de Dieu, qui ne veut rien de lui, qui, lorsqu'il vint en grâce pour le visiter, n'a vu en Christ qu'un objet de haine. Cependant, l'amour parfait était, dans la personne du crucifié, manifesté dans sa plus haute expression. Mais l'homme ne le voyait pas, et, pour autant qu'il l'avait vu, il ne l'avait pas voulu. Mort de Jésus. Versets 37 à 41.
Lecture de la parole. Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit « Certainement, cet homme était fils de Dieu. » Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles étaient aussi Marie de Magdala, et Marie la mère de Jacques le mineur, et de Jose, et Salomé, qui, lorsqu'il était en Galilée, l'avait suivi et l'avait servi, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem.
Lecture de l'étude. L'œuvre était accomplie. Jésus n'avait plus rien à faire sur la croix. Dans la pleine possession de sa force, il jeta un grand cri et expira. Ce dernier acte de sa vie était un acte d'obéissance, comme tout ce qu'il avait fait jusque-là. Il donne sa vie par obéissance. Il avait dit à ses disciples, « À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser, et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père, Jean 10, versets 17 et 18. Jésus n'est donc pas mort comme meurent les hommes à la suite d'un accident survenu dans les organes vitaux, par maladie, par faiblesse ou par un accident quelconque. Sa mort ne résulta pas des mauvais traitements qu'il avait subis, ni du supplice de la croix, comme beaucoup le pensent. La mort de Jésus provient de son obéissance lorsque tout fut accompli. Néanmoins, les hommes portent la responsabilité de sa mort. Ils l'ont livré à Pilate pour le faire mourir. Cet acte devait avoir pour conséquence la mort s'il n'eût été le Fils de Dieu. Juifs et gentils en sont coupables. Mais au-dessus de cette scène visible, il y avait l'exécution des conseils de Dieu. Une œuvre divine de justice et d'amour s'accomplissait en même temps que l'œuvre de la haine et du péché de l'homme. Au moment où Jésus expirait, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Dieu montrait par cet acte surprenant que le chemin nouveau et vivant était ouvert aux pécheurs jusque dans sa sainte présence. Par la foi en l'œuvre expiatoire de Christ, tous les hommes peuvent y pénétrer, puisque le péché, qui les en tenait éloignés, venait d'être expié et que le jugement était une chose passée. Dès lors, le croyant a une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, Hébreux 10, versets 19 et 20. Combien une telle œuvre est digne de Dieu et contraste étrangement avec celle des hommes. Christ a été le moyen de manifester l'amour de Dieu et, en même temps, la haine des hommes. Frappé de ce que Jésus avait expiré avec force, au lieu de succomber après une longue agonie, le centurion présent s'écria « Certainement cet homme était fils de Dieu. » Ce païen voit, dans la manifestation d'une pareille puissance de vie, l'origine divine d'un tel homme, car une mort semblable n'a rien de commun avec celle d'un mortel. Cependant, c'était un homme. Le mystère de l'incarnation demeure jusqu'au bout. Jésus était aussi bien Dieu qu'il était homme, ce qui le rendait capable d'accomplir l'œuvre de la rédemption. De pieuses femmes furent aussi témoins de la mort de leur Seigneur. Elles l'avaient suivi depuis la Galilée jusqu'à la croix. Leur amour pour lui ne leur avait pas permis de s'enfuir. Comme elles l'ont suivi et servi dans l'humiliation, elles auront une belle part dans la gloire avec leur Seigneur. Dans le domaine divin, l'humiliation précède la gloire. Mais si nous avons une part dans la gloire avec Christ, c'est lui qui nous l'a mérité. Tout sera grâce éternellement. Ensevelissement de Jésus, versets 42 à 47.
Lecture de la parole. Et le soir étant déjà venu, puisque c'était la préparation, ce qui est le jour qui précède un sabbat, Joseph, qui était d'Arimathée, conseiller honorable, qui aussi lui-même attendait le royaume de Dieu, vint et prit sur lui d'entrer auprès de Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna, ayant peine à croire qu'il fût déjà mort. et ayant appelé le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et l'ayant appris du centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit, et l'enveloppa du linceul, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie la mère de Jose regardaient où on le mettait.
Lecture de l'étude. Ésaïe avait dit, on lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, Ésaïe 53, verset 9. Cette parole devait s'accomplir. Le soir étant venu, un homme riche, nommé Joseph, de la ville d'Arimathée, conseiller honorable qui, lui aussi, attendait le royaume de Dieu, alla demander à Pilate le corps de Jésus. Pilate s'étonna, ayant peine à croire que Jésus fut déjà mort. Ne se fiant point à la parole de Joseph, il appela le centurion pour savoir de sa propre bouche si le fait était réel. Le centurion l'ayant confirmé, Pilate donna à Joseph le corps de Jésus. Sans cela, comme avait dit le prophète, son sépulcre était avec ceux des méchants, car on ensevelissait les crucifiés dans le cimetière commun et non dans des sépulcres taillés dans le roc. Joseph voulut éviter ce déshonneur pour celui dont il attendait le royaume. Il acheta un linceul neuf, dont il enveloppa le corps de Jésus et le déposa dans son sépulcre. Puis il roula une pierre à l'entrée qui servait de porte. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jose, parmi les femmes venues de Galilée, regardaient où l'on mettait le corps de leur Seigneur, afin de pouvoir l'embaumer après le sabbat. Marc est très abstrait dans ce récit, comme dans celui de la crucifixion et, du reste, dans tout son évangile, car l'Esprit de Dieu ne se départit pas de ce qui caractérise la présentation de Jésus comme prophète et serviteur. Tout est rapporté simplement, mais avec toute la dignité que réclame la personne du Fils de Dieu qui s'est fait homme pour servir ici-bas et qui, même dans la gloire, restera le glorieux serviteur de ceux qui l'auront servi. Luc 12, verset 37.
Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillants. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table, et, s'avançant, il les servira.